et 24 heures sur 24.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique. Et vous, vous êtes bien sûr VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Dans l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 27 août 2021, nous parlons de l'intégration des Africains aux États-Unis. Ils sont nombreux, Américains de première et de deuxième génération, originaires d'Afrique, à vivre aux États-Unis. Ils sont nombreux à se battre et à avoir réussi à s'intégrer dans la société américaine. De la politique aux affaires, du sport à la culture, en passant par l'immobilier, la science, la santé et la technologie, les Africains entendent de bon an mal an marquer positivement leur présence sur le sol américain. Difficile de dire avec exactitude combien ils sont, ces Africains vivant aux États-Unis. Pour sûr, ils se fondent dans la masse des Noirs en Amérique, des Noirs que le Pew Research Center évalue à près de 47 millions. Et c'est donc parmi eux que nous avons pu repérer nos invités de ce soir. À New York, nous avons Aboussi Diakaté, un politique, leader communautaire et puis advocate. Il est originaire du Sénégal. Il a été candidat aux élections municipales tout récemment à State Highland. Aboussi Diakaté, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, John.
Merci d'être avec nous. Kadjolo Koulibaly est avec nous. Il est, lui, spécialiste de l'immobilier et originaire de la Côte d'Ivoire. Kadjolo Koulibaly, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation.
Également avec nous ce soir, Dr. Martin Dramou, professeur de mathématiques au Johnson Community College en Caroline du Nord, fondateur et président de PAF University of Africa, c'est en Guinée. Dr. Martin Dramou, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et merci de m'avoir avec vous ce soir.
Alors, pour nos auditeurs, on va essayer de partager avec vous l'expérience de votre intégration aux États-Unis, les obstacles, les réussites, les échecs aussi, et puis les enseignements. On commence par vous, Abou Diakaté. Vous vous êtes impliqué dans la politique ces derniers mois. Vous avez été même candidat aux élections municipales dans la ville où vous vivez, State Island, à New York. Dites-nous, comment vous entrez en politique?
Merci, John. Et avant tout propos, permettez-moi de saluer mes compatriotes africains qui sont ici aujourd'hui et nous partageons cette plateforme. Et je ne dirais pas que c'est une première, mais permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. Je pense que c'est la deuxième fois que je participe à une émission de ce genre. Et je pense que les Africains qui vivent au niveau de la diaspora sont bien représentés partout, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et je pense qu'en tant qu'Africain, je dois saluer l'initiative que vous avez prise en créant cette plateforme aujourd'hui pour nous permettre de s'exprimer sur les questions qui nous interpellent tous et questions de société, mais aussi parler de notre intégration ici aux États-Unis. Et je pense que par rapport au motif d'immigration des Africains aux États-Unis, et je pense que les raisons sont multiples. Et je pense que ce qui est de mon expérience peut ne pas être l'expérience de la majorité de mes compatriotes qui sont ici. Parce que je pense que l'une des raisons pour les mouvements migratoires ces dernières années est l'accroissement des nombres de que ce soit les réfugiés, demandeurs d'asile venant de l'Afrique, parce que je pense qu'il faut que je puisse mettre ma réponse dans le contexte où nous sommes en tant qu'Africains. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons, que ce soit pas de ces braves hommes et femmes qui Et je pense que la plupart, comme on le dit ici aux États-Unis, « just to come here to meet our American dream », ça veut dire qu'en quête d'une vie meilleure, le rêve américain, ça a toujours existé. Je me rappelle au Sénégal, lorsque j'étais plus jeune, on était au lycée, que ce soit à l'université. Et les États-Unis, c'était le pays modèle pour nous. Je dirais pas modèle de réussite, mais c'est là où nous tous, on rêvait de venir. Et l'opportunité s'est présentée. Et je pense que comme tout émigré, quitter son pays, aller dans un autre pays, il y a vraiment des opportunités.
Je vais m'adresser à Kadjolo Koulibaly. Vous êtes dans la région de Washington, D.C. Vous avez choisi, vous, de faire dans le secteur immobilier. Comment vous arrivez dans ce secteur?
Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment j'ai commencé avec l'immobilier, en fait, je suis venu à Washington, D.C. pour travailler avec mes clients en finance. Et pendant que je le faisais, j'avais une licence dans l'immobilier sur la Pennsylvanie. Parce que ici, pour être agent immobilier ou courtier immobilier, il faut une licence, en fait, pour chaque État. Donc, supposons qu'on habite, on réside en Pennsylvanie, il va falloir la licence en Pennsylvanie. Donc, j'avais la licence là-bas et quand je suis venu à Washington, D.C., je me suis dit, bon, pendant que je travaille avec mes clients en finance, attends que j'essaie de faire l'immobilier pour également mieux les conseiller, en fait, sur le asset, sur le bien. Et c'est de là que j'ai commencé à faire l'immobilier ici, tout doucement. J'ai fait les examens, bien sûr, à D.C., au Maryland, ainsi qu'en Virginie. Et j'ai eu ma licence dans ces trois États. Et j'ai commencé à pratiquer. Et comment est-ce que j'ai fait pour arriver là où je suis arrivé présentement? C'est que dès le début, j'avais un plan et j'avais une destination. Je me suis dit que quoi, tu sais quoi, Kadjolo? Tu commences et la direction, tu dois avoir ta propre compagnie immobilière où tu vas être ton propre broker. Et de là, maintenant, tu peux avoir un impact de la communauté francophone afin de pouvoir éduquer, en fait, tes compatriotes. Et j'ai commencé avec mon plan séminaire, éduquer les non-francophones pour commencer. Quand j'ai commencé à faire un peu plus la main, j'ai commencé à faire des séminaires. Et jusque-là, j'avais ma propre compagnie récemment. Ce que je peux dire à tout le monde, ceux qui viennent ici de l'étranger, d'Afrique ou de peu importe, surtout d'Afrique, quand on vient ici, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a en même temps beaucoup de vices. Les deux sont pratiquement parallèles. Il y a juste au milieu. C'est de savoir ce qu'on veut faire et d'avoir une ligne de conduite adéquate. Se dire, bon, moi, je veux faire telle chose. Et comme pendant que je veux faire telle ou telle chose, il faut automatiquement marier ça. Et la bonne chose qui est, c'est que quoi? On peut avoir accès aux outils nécessaires afin d'arriver là où est-ce qu'on va arriver. Donc, ce que je peux dire aux gens qui veulent faire l'immobilier, c'est par exemple, c'est qu'avant de commencer, ayez, comme je l'ai fait au début, une idée précise de là où vous voulez arriver et surtout éduquez-vous pendant que vous êtes sur le chemin.
Voilà, donc on va en savoir davantage hein, au cours des minutes qui vont suivre. Permettez-moi d'introduire Martin Dramo. Vous êtes en Caroline du Nord, vous êtes enseignant de mathématiques. Et avant cette émission, on a eu une petite discussion et je vous disais, quand nous on faisait les maths, au lycée, parfois on se disait on ne les rencontrera jamais dans la vie. Et pourtant, vous dites non. Comment vous faites les maths? Comment vous arrivez à faire des maths ici aux États-Unis? Comment s'est passée votre intégration?
Merci, mon cher John. Merci pour cette émission. Et je remercie aussi tous les intervenants qui vont dans le même sens que le sujet. Alors, et on définit l'intégration surtout par le fait que l'on essaie de s'adapter, n'est-ce pas, à la culture de son pays d'accueil. Alors, et plusieurs théories sont lancées dans ce sens-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la théorie de quelqu'un qui s'appelle John. Et comme vous aussi, vous vous appelez John. Alors, lui, il définit quatre stratégies. Il dit, bon, par exemple, quelqu'un peut venir dans son pays d'accueil et décide, n'est-ce pas, d'embrasser la culture et abandonner sa propre culture. Alors, quelqu'un d'autre peut venir aussi et dire, bon, moi, je vais garder ma culture, je ne vais pas changer et je ne vais pas faire un effort, n'est-ce pas, de m'adapter à la culture de mon pays d'accueil. Ça, c'est une deuxième stratégie que l'on appelle la séparation. La première s'appelait l'assimilation comme ça. Et une troisième aussi stratégie, c'est par exemple essayer de prendre les bons côtés, n'est-ce pas, de sa culture et prendre les bons côtés de la culture de son pays d'accueil, rassembler les deux pour pouvoir avancer. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie intégration. Quatrième stratégie, qui est complètement le fait d'abandonner toutes ces cultures et chercher une autre culture encore qui puisse te plaire. Alors, ça, cette culture s'appelle la marginalisation. J'essaie de donner ces différentes stratégies pour essayer de me plonger dans moi, mon expérience et comment je fais pour pouvoir enseigner. Et ce que je dis toujours à mes étudiants, je leur dis, bon, vous êtes venus ici dans ce pays, essayez de trouver votre propre modèle selon vos objectifs. Quand je prends mon objectif, par exemple, je me suis dit qu'il fallait d'abord avoir l'éducation d'ici. Quand bien même je suis venu avec une maîtrise, j'ai eu une autre maîtrise ici en 2010, ensuite commencé mon doctorat en 2014. Après donc mon doctorat, j'avais déjà une licence, j'enseignais déjà à Baltimore avant de venir en Caroline du Nord, mais j'étais au lycée, collège, et ensuite je suis venu ici maintenant commencer à enseigner dans les universités. Les mathématiques, on se disait toujours, et même mes étudiants, beaucoup d'étudiants posent ces mêmes questions. Est-ce que les mathématiques sont adaptées à la vie courante? Mon frère de l'immobilier va vous dire, tout le monde dira. Et ensuite, par exemple, les astronautes, ils me posaient la fois dernière, ils disent, est-ce que tu peux venir ou bien tu peux nous aider à revoir nos formules lorsque l'on essaie d'avancer dans la technologie? Alors, moi, j'étais très content et on travaille beaucoup plus dans ce domaine-là. Revoir des formules mathématiques pour pouvoir avancer avec la technologie.
Donc, je vais revenir vers Abou Diakaté, autant pour moi. On parlait de politique. On constate que les Africains et la politique aux États-Unis, c'est pas trop ça. Comment vous avez embrassé la politique et quels ont été vos obstacles et qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement au jour d'aujourd'hui?
On était à l'arrêt avec l'intégration, bien sûr. Comme j'ai dit, ça rime avec les opportunités. Certes, il y a des défauts et la plupart de nos compatriotes qui sont là, ou je dirais aux États-Unis. Pour moi, depuis que je suis là, ça fait presque 20 ans maintenant, j'ai jamais entendu ici à New York, bon, je ne sais pas, peut-être ça existe, peut-être ça n'existe pas, mais on va faire des recherches. J'ai jamais vu un Africain briguer des postes, que ce soit au niveau des instances, au niveau local, et au niveau étatique, État de New York, ou bien au niveau fédéral. Maintenant, cette année, par rapport à l'évolution naturelle des choses, et comme vous le savez, je vous ai dit que j'ai fait du plaidoyer ici au niveau communautaire et je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de petits qui existent dans la communauté africaine. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans la vie communautaire. Il y a été une évolution naturelle qui m'a permis, avec la grâce du bon Dieu cette année, de me présenter au niveau des élections au niveau local, ça veut dire City Council. Et maintenant, faire ça, oui, c'est une fierté pour beaucoup de nos pères africains que j'ai eu à rencontrer, mais pour moi, c'était une obligation morale, parce qu'on doit hisser le drapeau africain haut. Et je pense que les élections qui sont passées au mois de mai, c'était les primaires, c'était une décision que j'ai bien mûrie moi-même avant de me lancer dans ces échéances du calendrier électoral. C'était un choix judicieux et pour beaucoup de personnes qui m'ont soutenu durant les élections primaires, j'ai pas eu à participer malheureusement parce qu'en fin de compte, j'ai été éjecté pour des raisons que vous savez. Ici, bon, c'est le même concept qu'en Afrique, c'est ce qu'on appelle les parrainages, quoi.
Donc, tout à fait.
C'est les élections au niveau municipal, au niveau de New York. Maintenant, les raisons, je ne peux pas vraiment m'empiéter sur les raisons, mais tout ce que je peux vous dire, c'est très important pour nous, en tant qu'Africains, qu'on puisse s'immiscer dans la vie politique au niveau de nos régions respectives. Ça va permettre aussi d'avoir plus de voix, mais ça va nous permettre aussi de s'imprégner dans la vie communautaire et de permettre aussi à la nouvelle génération qui vient aussi de vraiment...
d'avancer, d'intégrer, de continuer donc ce que vous avez commencé. Alors, Kadiolo Koulibaly, le secteur immobilier, je ne suis pas du domaine, mais c'est difficile ou pas d'intégrer ces secteurs et comment vous réussissez à franchir les obstacles? Parce que apparemment il y en a qui sont là depuis des générations et pour un Africain, c'est difficile de faire son nom. Comment vous vivez cela?
Absolument, vous savez, rien n'est facile sur Terre. Moi, d'abord, je crois en Dieu, donc il y a ça qui est là, qui facilite un peu, comment dirais-je, la force. Comme il faut faire toute chose, il faut avoir une vision assez claire de ce qu'on veut faire. Savoir ce qu'on veut faire et là où est-ce qu'on veut aller. Et par conséquent, on adopte une certaine ligne de conduite. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, quand j'ai commencé, j'avais ma stratégie qui était de faire des séminaires, mais je savais, sur mon chemin, j'allais me concentrer sur la communauté francophone pour ouvrir ma propre compagnie immobilière. Et une chose très importante pour pouvoir faire son nom, surtout quand on sait qu'on va rencontrer beaucoup d'obstacles, c'est d'améliorer son métier. Et c'est une chose que je fais en permanence avec les séminaires, aller en ligne et apprendre beaucoup de choses. Et là, quand on parle, on devient expert. Et j'aime dire à tout le monde, comme quelqu'un a dit une fois, un est mieux que zéro. Donc tu dis, j'ai un client qui est là, une cliente qui est là. Il faut que ce client et cette cliente sachent que je suis un expert ou expert dans mon domaine. Donc tu saisis chaque opportunité qui est là et tu apprends. Et en même temps que tu apprends, tu es humble. Tu dois être humble de savoir que je ne connais pas suffisamment. Et tu passes ton temps à apprendre. Et n'aie pas honte de te dire, bon ok, faut que je parle voir telle personne qui est un peu plus avancée que moi afin d'apprendre auprès de cette personne. Mais ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance en soi et beaucoup de volonté à grandir. Parce que quand on ne grandit pas, on ne fait que reculer. Donc, il faut que je puisse apprendre. Mais le plus important, c'est quoi? D'avoir une vision claire, de marier la vision et de se concentrer rien que sur la vision.
Tout à fait. Alors, docteur Martin Dramou, dans le secteur de l'enseignement, de l'éducation de manière générale, est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains? Est-ce qu'ils parviennent à s'intégrer et à occuper des postes de responsabilité? Est-ce que vous avez, vous aussi, connu certains obstacles au niveau des avancements ou même des étudiants que vous croisez sur votre chemin? Vous êtes Africain, disons les mots comme ils sont, vous êtes noir. Est-ce que vous êtes victime de racisme, par exemple?
Absolument, il y a des difficultés partout. Dans l'enseignement, c'est difficile de rencontrer des Africains dans des postes de grande responsabilité, surtout au niveau des universités. Cependant, ici en Caroline du Nord, je connais quelqu'un qui est le superintendant de Durham, et celui-là, un ami d'ailleurs, qui fait honneur aussi à l'Afrique dans ce sens. Maintenant, par rapport aux difficultés que les gens ont, la plus grande de ces difficultés consiste à l'évaluation, n'est-ce pas, de leur diplôme. Lorsque les gens arrivent de l'Afrique, ils ont des diplômes qu'ils ont obtenus au Cameroun et ils ont travaillé durement pour avoir ces diplômes, que ce soit au Cameroun, à Abidjan, en Guinée, partout en Afrique ou même ailleurs. Alors, et s'ils ont eu une maîtrise, par exemple, il se trouve que leur diplôme est peut-être réévalué à un niveau un peu plus bas et ça décourage des gens, ou du moins c'est des reconnaissances aussi même des carrières. Il y a par exemple, lors de mon interview, j'interviewais un étudiant qui me dit, mais docteur, j'ai déjà quelqu'un qui était un docteur au Sénégal et qui faisait des opérations chirurgicales, mais il est là, il est employé comme un CNA parce que son diplôme n'a pas été reconnu. Alors, ça, ce sont des difficultés que des Africains ont, en dehors même du fait encore des barrières de langue qui ne leur permettent pas, n'est-ce pas, d'avancer. Si quelqu'un vient d'un pays francophone, il doit apprendre l'anglais et même... Donc, il y a plusieurs. Seulement, comme je disais au départ, il faut que, et je dis ça à tout le monde, il faut que chacun ait un objectif bien défini. C'est-à-dire que je vais à ce niveau. Et voici les moyens que je dois réunir pour que je puisse arriver à ce point. Ainsi, tu pourras trouver les voies et moyens pour contourner les obstacles afin d'arriver là. Et moi, j'ai été, comme votre question le disait, j'ai été aussi dans ce sens-là. J'étais à Baltimore et j'ai eu beaucoup de difficultés aussi avant d'avoir ma première licence d'enseignant là-bas, puisque j'enseignais au collège et au lycée. Alors, quand je suis venu ici et j'ai commencé à travailler dans l'enseignement supérieur encore, j'étais juste un vacataire, comme on dit, c'est-à-dire je n'avais pas une position permanente. Chemin faisant, après mon doctorat, c'est à ce moment que j'ai été confirmé complètement comme un full-time.
Un professeur à temps plein. Malheureusement, nous ne sommes pris pas le temps. On va faire un dernier tour de table. Question de peut-être retirer de votre expérience les enseignements qui pourraient servir aux autres. On va commencer donc par Abou Diakaté. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil hein, à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient ici aux États-Unis ou qu'ils soient encore sur le continent et qui demain arriveront peut-être ici aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater sa piste? Parce qu'on arrive parfois, on est docteur, on se retrouve en train de vendre des choses dans les magasins, on est enseignant, on devient, en fait, on ne suit pas sa vocation. Quel est le conseil que vous pouvez donner, vous, dans votre secteur, pour que les gens réussissent? Abou Diakaté.
Merci, John. Je pense que c'est une question très pertinente. Moi, je leur dirais tout simplement de s'impliquer dans la vie active, de avoir un très bon état d'esprit et ne rien lâcher. C'est quelque chose qui va se faire partout où nous sommes. Et je pense que promouvoir la participation communautaire, civique pour moi, c'est une obligation morale. Et quand tu vois aujourd'hui dans les grands États comme New York, l'inclusion sociale, l'engagement civique, le dialogue et tout ce qui est développement des compétences, nous faisons en telle sorte que ça soit une réalité dans nos communautés.
On vous a suivi. Kadiolo Koulibaly, très rapidement, le conseil que vous vous donneriez à ceux qui nous écoutent et même aux Africains qui veulent s'acheter une maison ou deux ou trois, quel est le conseil à suivre?
Je pense que, comme pour toute chose, c'est une affaire d'éducation. Il faut s'éduquer. Et il faut arrêter d'écouter absolument ce que Pierre, Paul, X ou Greg disent. Il faut chercher la source afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On s'éduque en cherchant à contacter les experts. Bon, dans l'immobilier, je suis un expert en immobilier, je peux le faire. Mais quelque chose que vous voulez faire, en fait, cherchez à discuter avec une personne qui est experte dans son domaine et ne pas juste écouter Pierre, Paul, qui disent des choses qui ne sont pas absolument correctes. Ça, c'est très important.
Docteur Martin Dramou, votre conseil, comment réussir son intégration aux États-Unis?
Alors, ce que je conseille précisément au ministre de l'enseignement supérieur ou même de la pédagogie et autres, c'est de faire en sorte que la pédagogie africaine s'adapte, n'est-ce pas, de manière contextuelle à ces réalités. Le deuxième conseil part, n'est-ce pas, au niveau des étudiants. Puisqu'ils quittent l'Afrique pour venir étudier ici, je crois que toute fois qu'un étudiant ou quelqu'un quitte l'Afrique pour dire qu'il vient aux États-Unis pour étudier, il n'a qu'à rester sur ses objectifs. Il ne faut pas qu'il reste dans la tentation des McDonald's, des ceci, pour être distrait. Et après quelques années, il se met à regretter.
Espérons que tous ces conseils seront suivis. C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vos présentations et réalisations John Linden, production Georges Léonard Sagno. Merci à vous, nos invités, et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.